5, 4, 3, 2, unité, top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Le riz est plus évolué que nous. Et c'est pour ça qu'il a plus de gènes.
Celui qui avale une noix de coco a confiance en son anus.
La poésie qui est aussi une arme de libération.
Moi j'engage le tueur à gage.
C'est pas gaz de schiste pour rien.
Carrément à l'échelle du quartier, il y a une approche vraiment bioclimatique.
C'était un bordel musical pas possible.
Écoute ça.
Très beau, très esthétique et aussi assez terrifiant.
C'est une des théories, effectivement, qui est privilégiée par les historiens.
Sur des grosses bobines.
Qui permettent aux jeunes artistes de se situer et surtout de se structurer.
Cet échange Aimé Césaire contre une musique pour les Chibani.
Ici, on est des hackers, waouh, on a un oscilloscope.
Une appropriation et aussi dans une transformation de ces technologies.
Sur le chemin d'une société qui soit un peu plus apaisée.
L'Auberge Espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
À voir, à entendre, à toucher.
C'est quelque chose d'assez connu quand même dans le Sud.
Ouais, Divergence, on sent bien, c'est pour ça qu'on revient.
Et on revient comme tous les mardis pour l'Auberge Espagnole, en l'occurrence de ce mardi 21 janvier. Auditeur de Divergence FM, Samuel Pereira Diaz est étudiant en écologie et conservation de la nature, un membre actif de l'association LACSI qui viendra nous parler du centre d'accueil de soins et de réhabilitation de chimpanzés issus du commerce illégal Sanaga Young. Puis Gérard Viols viendra avec Sébastien Cabrier dans ce studio pour parler des concerts à suivre de la saison jazz à Junas. Puis c'est Sabine Maillard, directrice d'Héro Musique et Danse, qui viendra vous parler des deux concerts programmés par l'association Au Domaine d'Eau, avec un phoneur de Thomas Fersen qui jouera ce 24. Et puis on parlera des 10 ans de l'association Casa Amadis, avec notamment une exposition à suivre, et ce sera avec Tito Livio Santos Mota et Florent Robin.
Chiara.
Et tandis que Chinese Man est à la recherche du singe de l'espace, Searching the Space Monkey, eh bien nous sur Divergence, on va plutôt parler de chimpanzé et c'est avec Samuel que nous allons en parler. Bonjour.
Bonjour.
Alors comme je le disais dans le sommaire de cette auberge espagnole, tu es étudiant en écologie et conservation de la nature, mais aussi un membre actif de l'association LACSY, L-A-C-S-Y, pour l'association Les Amis des Chimpanzés de Sanagayong. Alors Sanagayong, c'est un centre de sauvegarde des chimpanzés issu, on va dire, du braconnage illégal. Comment tu en es venu à t'intéresser à cette question-là particulière ?
Eh bien, depuis mon enfance...
Il faut parler dans le micro.
Eh bien, depuis mon enfance, je suis sensibilisé à tous les problèmes et enfin toutes les problématiques de destruction des espaces naturels et des espèces, et particulièrement celle des chimpanzés. Et voilà, par rapport à la...
Comment ça se fait ? Alors ça pose une question, c'est pas tous les enfants qui ont l'occasion de s'intéresser aux chimpanzés quand ils sont tout petits. Est-ce que c'était le contexte familial qui faisait que ?
Eh bien je sais pas, peut-être bercé par les documentaires d'Arte, qui ont fait que voilà, ma petite enfance dans la campagne aussi peut-être.
Mm-hmm. D'accord, voilà. Et ce qui t'a amené aussi à ce cursus particulier.
Voilà, et aujourd'hui je suis en dernière année de master d'écologie.
Ok, alors l'association s'est créée quand, ici à Montpellier ? Parce que le centre, lui, doit exister depuis plus longtemps, j'imagine ?
Le centre Sanagayong existe depuis plus de 15 ans et l'association existe depuis à peu près un an et demi.
Mm-hmm. Alors un centre qui se trouve au Cameroun ?
Voilà, c'est ça.
Voilà. Comment s'est fait la connexion ?
Eh bien, la connexion s'est faite par l'intermédiaire de Perrine Audier, qui est une volontaire chevronnée de ce centre depuis à peu près 4 ans, qui, avec Pierre-Alex Alexandre Dupéra, ont créé LACSY, qui est le relais français de l'action de Sanagayong. Mmh. Voilà. Donc, LACSY a pour mission principale la recherche de financement, le recrutement des volontaires, la sensibilisation pour aider l'action de Sanagayong.
Alors, c'est une action qui vise, j'imagine, bah, d'une part à empêcher le braconnage, etc. Est-ce que c'est important, ce problème de braconnage des chimpanzés au Cameroun ?
Oui, il est extrêmement important, oui. C'est des milliers d'individus qui sont tués illégalement chaque année dans les forêts africaines.
Et pour quel type de commerce ?
Eh bien, principalement, ils sont chassés pour la viande de brousse, qui est une viande très appréciée, on va dire, sur les marchés africains. Mmh. Donc ça, c'est les adultes qui sont consommés. Et les petits, ils sont victimes d'être très mignons. Et donc, ils sont vendus également sur les marchés, mais en tant qu'animaux de compagnie ou mascottes chez les gens. Et enfermés au contact de l'homme dans des cages, dans des conditions souvent assez atroces.
Alors, est-ce que c'est un trafic qui se limite au Cameroun lui-même ou est-ce que, justement, des petits occidentaux peuvent aussi, au marché noir, trouver des bébés chimpanzés qui viendraient de ce type de trafic au Cameroun ?
Oui, oui. On peut, si on le veut, trouver des chimpanzés un peu partout dans le monde. Mmh.
Donc, en fait, il y a un rayonnement international de ce type de trafic à partir du Cameroun.
C'est un trafic très lucratif. Il faut savoir que le trafic d'animaux, c'est le troisième commerce illégal derrière les armes et la drogue.
Mmh. Ouais. Ça, on ne le sait pas forcément.
Non, on ne le sait pas forcément. Ouais. C'est l'une des causes principales de la disparition des espèces aujourd'hui et depuis déjà bien longtemps.
Alors, le centre Sanagayong occupe aujourd'hui 2 km², héberge aujourd'hui 73 chimpanzés. Mais j'imagine qu'une fois qu'ils ont été recueillis, soignés éventuellement, après ils sont remis en liberté ou...
Eh bien, toute la difficulté est là. Il faut savoir que ce sont des espèces qui fonctionnent en groupe, donc avec une composante sociale et comportementale à prendre en compte. Et tous les sanctuaires, qui est aussi le synonyme de refuge pour chimpanzés comme Sanagayong, doivent mettre en place une certaine logistique pour pouvoir intégrer cette composante-là. Donc, c'est-à-dire que, et c'est le but de ce projet-là sur KissKissBankBank, c'est de pouvoir augmenter un petit peu la surface de volière que le centre a mis en place pour pouvoir permettre cette intégration au groupe déjà en place. C'est-à-dire qu'il y a des animaux, il y a d'autres chimpanzés qui arrivent assez régulièrement et il faut qu'on puisse permettre aux individus déjà en place et aux individus arrivés de pouvoir se choisir. Mmh. Et ensuite former des groupes viables, solides, pouvant nous permettre ensuite de remettre dans la nature.
Alors actuellement, il vous reste 44 jours sur la campagne KissKissBankBank avec un objectif à 2 800 €, 635 collectés pour l'instant auprès de 19 KissKissBankers. Donc il vous reste 44 jours, c'est relativement atteignable.
Ouais, on espère qu'on arrivera à atteindre cet objectif. ce serait vraiment un plus pour l'association, qui a déjà énormément de choses à faire, énormément de dépenses. Il faut savoir que donc, ça fait plus de 15 ans qu'elle agit, et qu'à peu près depuis 2-3 ans, les animaux commencent à être bien préparés, et que d'importantes missions en milieu naturel vont aller rechercher la forêt à réintroduire. Mmh. Ça demande aussi énormément de financement, et c'est pour ça que l'ACSI a pris en charge cette mission de Kiss Kiss Bank Bank.
Mmh. Alors j'imagine que trouver une antenne en France était assez naturel, le Cameroun étant un pays francophone, et puis les entreprises françaises y étant carrément implantées comme au bon temps de la France-Afrique d'alors.
Ouais. Oui, oui. Donc les radios sont assez participatives et nous aident dans cette communication.
Là-bas sur place aussi ?
Sur place, il y a quelques radios, oui, puis il y a l'action même de Sanagayong qui communique autour d'elle. Mmh.
Alors je rappelle qu'on peut retrouver bien l'association sur l'ACSI, lacsy.blogspot.fr, qu'on peut vous y contacter aussi pour rejoindre l'association. Vous êtes combien de membres à Montpellier ?
On est une dizaine à Montpellier.
Une dizaine, donc si vous avez des recrutements particuliers à faire, c'est le moment de dire « Oh, on a besoin d'un graphiste, on a besoin d'un administrateur. »
N'hésitez pas, ouais.
N'hésitez pas.
On est prêt à prendre toutes les bonnes volontés qui puissent nous aider à au moins freiner un tout petit peu ce trafic et à aider ces animaux qui sont souvent dans la détresse et à pouvoir, si on peut, renforcer ces populations sauvages qui disparaissent de jour en jour.
Voilà. On peut retrouver donc, c'est l'ACSI, lacsy.blogspot.fr, qui est l'homologue français de IDA Africa. Et puis, merci beaucoup Samuel. On précise que c'est en tant qu'auditeur de Divergence FM que tu nous as contactés,
oui.
Ce qui nous fait toujours bien plaisir.
Merci beaucoup Gilles.
À bientôt.
Au revoir.
Bonjour, bonjour. Effectivement, petit changement de programme totalement imprévu, parce qu'on avait prévu de faire ça, mais beaucoup plus longtemps dans le temps. Et puis Sébastien est venu nous rejoindre. Sébastien, c'est le responsable communication de Jazz à Juna. Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Et donc ça y est, nouvelle saison.
C'est ça, on repart.
C'est parti ?
C'est parti, on attaque le 1er février à Junas, on reste sur nos terres pour redémarrer cette année 2014 avec beaucoup, beaucoup de concerts. Voilà, tous ces concerts à chaque fois, soit des musiciens régionaux, soit des musiciens nationaux, parfois internationaux. En tout cas, très éclectique et avec plein de styles de jazz différents. Voilà.
Quand tu dis on reste sur nos terres, ça veut dire que parfois vous sortez de vos terres.
Ah oui, de plus en plus souvent d'ailleurs, puisqu'on vient par chez vous, près de Montpellier, faire des concerts à Lunel-Vielle notamment, à Saint-Christol. Voilà, on va à Nîmes, on va au Vigan, on a un festival au Vigan donc, qui a lieu au mois d'avril, depuis, ça sera la 5e édition en fait, cette année en 2014. Donc oui, l'association a depuis pas mal d'années une ouverture totalement régional. On a même fait des choses en Lozère. Donc voilà, pourvu que ça dure, en tout cas, nous, on essaie de semer comme ça des concerts de jazz ben, là où on peut le faire.
Et toujours en participation avec les municipalités.
Les municipalités, depuis pas mal d'années aussi, avec des lieux sur place. Je pense au Cratère, à la Paloma, au Théâtre d'Allègre les Fumades. En tout cas, des lieux propices, en tout cas, qui font pas forcément de la musique ou du jazz. Et nous, on essaie de construire des partenariats avec eux pour un peu faire rentrer cette musique dans leurs murs. Et ça se passe très bien et je les remercie. Et on a de plus en plus d'ailleurs de partenaires de ce genre sur la saison.
Est-ce que ça tient aussi au fait que, évidemment, en festival, on pense au jazz à Junas, ce sont les carrières et donc c'est en plein air. Ce qui fait qu'en période hivernale, effectivement, il faut trouver d'autres lieux.
C'est ça. Non,
par conséquent, je sais que, bien sûr, à Junas, vous le faites parfois au temple et au foyer.
Oui.
Et puis, effectivement, ça reste quand même deux lieux relativement limités.
Oui.
Ce qui est...
Sachant que le temple, pareil, ça fait partie de l'évolution, c'est une petite anecdote, mais ça fait partie de l'évolution aussi de ce qu'on a fait à Junas avec les vitraux, notamment cet été qu'on a fait avec Daniel Humer, donc batteur éminemment connu dans nos musiques, qui a créé les vitraux du temple. Donc on a le troisième temple en France avec des vitraux contemporains. Et ce temple se voit doté d'un chauffage là depuis la rentrée. Donc pourquoi pas imaginer des concerts un peu plus souvent tout au long de l'année aussi dans ce lieu assez particulier.
Quand tu dis Daniel Humer a fait les vitraux, il faut rappeler que c'est un artiste peintre au départ et qui fait des choses assez merveilleuses.
Et qui est un artiste reconnu, c'est vraiment, oui. Il fait partie, alors c'est pas encore des prix exorbitants au niveau de ses toiles, mais quand même ça commence à être assez onéreux. C'est un artiste vraiment, à la batterie il est monstrueux et à la peinture, c'est de l'art contemporain, de l'art abstrait. C'est assez, en tout cas le résultat du travail qu'il y a au temple avec 6 vitraux, plus une rosa, c'est assez magique. Et le temple devient d'ailleurs maintenant un lieu de visite de Junas. Donc c'est, voilà.
Moi, j'ai souvenir de l'avoir justement interviewé à Junas. C'est souvenir mémorable, s'il en est, parce que juste avant lui, il y avait eu Manu Katché.
Ah oui, c'est ça. Ça avait été une soirée
inoubliable. Ah oui, et en plus, en titre d'intervieweur, si je peux me permettre, c'est vrai que c'était intéressant parce qu'on avait là deux personnages, oui, batteurs illustres dans le domaine du jazz. Et on peut le dire pour Manu Katché un peu dans la pop music, mais avec des points de vue très différents et malgré tout une symbiose au niveau musique qui permettait pour moi, simple intervieweur, d'avoir la chance de rencontrer ces deux en même temps pratiquement. J'aurais aimé les avoir tous les deux sur le plateau. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Enfin, ça, c'est l'anecdote personnelle. Donc, on va revenir un peu quand même sur Jazz à Junas.
Oui.
Alors, évidemment, jusqu'à présent, l'association avait scindé son nom en deux. Puisqu'il y avait donc Jazz à Junas Festival et puis l'association qui, elle, avait un autre nom, justement pour la promotion de ces spectacles hors Junas.
Voilà, mais en fait, c'est l'ancienne saison, ça s'appelait Vagabond Jazz, mais le nom de l'association, c'est toujours Jazz à Junas. Et on a enlevé ce nom pour tout simplement limiter les incompréhensions. Donc c'est bien Jazz à Junas qui fait le festival et c'est aussi Jazz à Junas qui fait la saison. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Et c'est vrai que la saison, maintenant, se déploie sur tout au long de l'année avec des concerts... assez régulier, une à deux, voire trois fois par mois. Et donc là, on attaque le 1er février à Junas avec Hippocampus Jazz Gang, qu'on était en train d'écouter tout à l'heure, avec une soirée très particulière. C'est la première fois qu'on tente ce genre d'expérience. Une soirée qu'on a placée sous le signe du jazz, forcément, et du charleston, puisque, comme on l'a entendu, le groupe de Montpellier, jeune groupe de Montpellier, propose un répertoire des années 20, 30, 40, autour du swing, du charleston. Et on a imaginé faire une... Alors, c'est même pas une première partie, mais à partir de 19h, avoir des professionnels qui seront là pour initier les gens à la danse swing et charleston, donc dès 19h, et le concert aura lieu à 21h. Donc voilà, on va essayer de créer quelque chose d'assez sympathique sur le village, puisque ça fait quelques temps qu'on n'avait pas fait de concert, hormis le festival, mais ça fait quelques temps qu'on n'avait pas fait de concert en saison dans le village. Et donc, voilà, on veut une soirée très conviviale, très sympa, et en plus, on est à un moment un peu particulier à Junas, puisque, comme d'ailleurs partout, mais il y a les élections municipales qui approchent, et notre maire ne se représente pas. Donc c'est aussi un signe symbolique de faire un dernier concert avec lui et son équipe sur le village.
Et donc ça se passera donc à la salle polyvalente, donc le samedi 1er février à 19h. Et là, c'est vraiment le début d'une grande saison.
On lance les hostilités, on verra bien comment ça se passe, mais on va avoir beaucoup de groupes intéressants. Et au mois de février, du coup, on a un deuxième concert avec Musica Nuda, donc ça sera à Lunel-Viel, donc plus près d'ici. Un groupe assez atypique là encore, puisque contrebasse et voix, deux musiciens italiens. qui propose un répertoire à la fois issu de la chanson traditionnelle italienne, issu aussi de ce qui se passe au niveau des États-Unis et de l'Angleterre, avec ils reprennent des morceaux pop, etc., rock et même jazz, forcément. Mais en tout cas, voilà, c'est un groupe qu'on voulait faire depuis longtemps, qui était assez onéreux, pour tout vous dire, comme beaucoup de groupes très connus en Italie, eux, c'est leur cas. Et il se trouve que bon, la crise aidant, l'envie aussi de faire un peu plus de concerts, on a pu les attraper vraiment presque par hasard. C'est pour ça qu'on a calé ce samedi, qui n'est pas notre jour habituel de programmer un samedi. Mais là, ça sera à nouveau un samedi, le 22 février. Et donc, ça sera la seule date en région Languedoc-Roussillon. Il y aura une date en Luberon et je crois qu'il y en a une à Paris, puis après, ils repartent. Donc, c'est voilà, vraiment l'occasion de voir ce groupe en live, enfin, ce duo en live qui est assez impressionnant. Ils sont pas très nombreux à proposer ce genre de contexte et de musique. Ils ont fait d'ailleurs des petits hein, en France, en région notamment. Il y a des groupes qui se sont mis à créer des duos contrebasse-voix avec l'homme à la contrebasse et la femme à la voix. On a pas mal de groupes qui se sont inspirés de ces deux-là. Donc voilà, on est très heureux de pouvoir les accueillir et on espère que le public sera au rendez-vous pour ce concert un peu exceptionnel. Ces musiciens internationaux pour le coup, puisqu'on n'en a pas non plus tous les jours en saison, et là ça sera le cas.
Faut-il dire que ce sont quand même des musiciens reconnus depuis longtemps sur la oui. scène jazz, et que chaque fois que, pour des personnes qui ne sont pas habituées au jazz, dès que l'on met cette musique-là, eh bien ça adhère tout de suite.
Voilà, c'est un peu l'idée, c'est que nous, on est, voilà, Jazz à Junas, on est capable, et on le fait, de proposer des choses très très ardues, comme on dit, des choses où il faut vraiment voilà, connaître, ou en tout cas on essaie de faire entrer les gens vers des choses... plus free, etc. Mais notre particularité, c'est vraiment aussi d'ouvrir plein de portes. Donc on en ouvre une, le premier avec Hippocampus, et on va en ouvrir une autre avec ce duo assez atypique, mais qui, voilà, qui peut entraîner oui, plein de monde dans son aventure. Et on espère que, en tout cas, en général, ça se passe très bien quand ils font des concerts. Le public adhère vraiment. Et du coup, après, c'est à eux à les amener vers des choses. Il y a des solos de contrebasse aussi. Il y aura des choses un peu plus atypiques. Mais en tout cas, la voix de la chanteuse est assez, assez phénoménale. Donc voilà, on espère que les gens seront au rendez-vous. Donc c'est le samedi 22 février à Lunel-Vielle.
À la salle Antoine Roux, effectivement. Et tu parlais d'ouverture, je crois que... Est-ce que vous continuez justement, au point de vue ouverture, à faire ces démarches auprès de lycéens?
Tout à fait, ça s'est développé, ça se développe encore. Donc lycée, collège et école. Donc on a plein de projets autour des élèves. On a un service éducatif musique au sein de l'association, donc porté alors par nous forcément, mais par la DRAC et l'éducation nationale. Et donc on est le seul service éducatif musique du Gard. Il y en a trois en région, donc voilà, c'est quelque chose d'assez rare finalement. Donc on est un peu aussi cobaye dans cette histoire-là. On essaie de faire avec nos moyens le plus de choses possible, même si on n'a pas les moyens de l'opéra à Montpellier par exemple. Mais en tout cas, on est adoubé, on va dire, par les instances de l'éducation nationale. Et donc on essaie de faire entrer le jazz dans les écoles le plus possible.
Eh bien, Sébastien, le temps passe vite, on va dire. Oui. C'est vrai qu'on aurait aimé, mais on se reverra pour parler de bien d'autres choses, parce qu'il y a le festival du Vigan, il y aura oui. le festival Jazz à Junas, il y aura, ben, il y a plein de choses. On ne va pas en parler aujourd'hui, parce qu'on va garder tout ça pour nous. Maintenant qu'on est un peu dans la confidence, on ne va pas dévoiler un peu tout ce qui va se passer durant ces prochains mois. On se reverra fort prochainement, notamment pour ce festival du Vigan, là aussi, oui. où depuis quelques années, vous êtes maître d'œuvre. Et quel maître d'œuvre? Et puis, on se reverra, bien entendu, pour le Jazz à Junas, parce que là, ce sera The Big Festival. Sébastien, on va se quitter avec Musique à Nous, avec une particularité cette fois-ci, oui. c'est que, eh bien, on l'a choisi volontairement. On a choisi un titre en français, ça s'appelle Des ronds dans l'eau. Rappelez-vous la date, samedi 22 février, 21h, salle Antoine Roux à Lunel-Vielle. Sébastien, merci encore
merci
et
à vous.
Très très bientôt.
À bientôt. Sous le nion d'un sourire.
la chanson d'un oiseau. Tout prenait de plaisir à faire des rondes dans l'eau. Aujourd'hui tout balade dans des eaux moins tranquilles. Tout acharne, tout flotte, mais l'amour où est-il? L'ambition a des lois, l'ambition est un culte. Tout voudrait que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme Aero, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau. S'il y a tous ces témoins que tu fais dans ton dos, dis-toi qu'il pourrait bien devenir ta ronde dans l'eau. Te prendre pour l'idiot, l'idiot de ton village. Restez là pour faire des ronds dans l'eau, pour faire des ronds dans l'eau.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, héros, musique, danse, programme de concerts au domaine d'eau ce premier semestre. Thomas Fersen and the Ginger Accident ce vendredi 24 janvier, ainsi que Moulatou Astacté le 20 février. Thomas Fersen, que nous avons joint hier au téléphone. Nous sommes en ligne avec Thomas Fersen. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, Divergence FM vous souhaite une très très bonne année 2014 qui va démarrer ce 24 pour les Montpelliérains, ce 24 janvier à 21h au Domaine d'Eau à Montpellier pour un concert de Thomas Fersen and the Ginger Accident. Peut-être faire un retour sur cet accident, sur cette appellation The Ginger Accident, c'est quoi? C'est le nom du groupe?
Ginger Accident, c'est un groupe qui existe depuis, je me suis dit, 3-4 ans. Qui s'est formé autour d'un chanteur indien qui s'appelle Joe, Sojo, et le groupe s'appelle Sojo en Ginger Accident. Et moi, j'ai entendu ce projet-là il y a un peu plus d'un an. J'étais en train de faire mon disque, j'ai fait un gros morceau, et puis en entendant leur travail, je leur ai envoyé des chansons pour leur proposer de faire des arrangements. Et voilà, ils ont fait tout l'album avec moi, et donc c'est pour ça que l'album s'appelle Thomas Fersen and the Ginger Accident, parce que il fallait marquer l'identité de ce disque par cette collaboration. Et voilà, après ils m'ont aidé à monter le groupe, mais c'est pas eux qui tournent avec moi.
Du coup, c'est qui tourne avec toi?
Alors il y a les Cuivres qui font partie de leur bande, qui jouent sur l'album d'ailleurs. Il y a Rémi Capriello qui des fois fait aussi partie de leur réseau, qui remplace de temps en temps le batteur. Et puis, il y a Pierre Sandra qui m'accompagne depuis plus de 20 ans. Il y a Léa Gagel qui tient les claviers. Et Oliver Smith qui joue la basse, qui fait aussi partie de la bande des Ginger Accident. Voilà.
Est-ce que c'était particulier de travailler avec une formation qui préexistait par rapport à avant ou pas du tout?
C'est-à-dire que moi, quand j'ai entendu, j'ai aimé leur son, j'ai aimé leurs arrangements, leurs idées, leur créativité. Et il y avait beaucoup de choses, ils faisaient beaucoup de choses, ils faisaient des chœurs avec des filles, des chœurs avec des chorales, ils sont allés enregistrer des cordes à Calcutta. Il y avait les cuivres donc de la formation Art Deco à Saint-Etienne. Donc, il y avait beaucoup de choses et c'est tout ça, je voulais habiller mes chansons, enfin je leur ai proposé d'habiller mes chansons avec tout ça, quoi. Donc c'est sûr que ce qui est différent, c'est que par rapport à l'habitude, c'est que c'est pas moi qui ai fait les arrangements, et c'est eux qui ont habillé les chansons. Les chansons, je leur ai donné piano voix.
Du coup, c'était plus d'oxygène ou plus de stress?
C'est-à-dire, c'était un... Oui, c'est quelque chose qui me surprend moi-même, parce qu'évidemment, quand ils ont habillé les chansons, j'étais spectateur, quoi. Donc c'était assez différent, et puis surtout, ils ont une énergie... créative qui est très séduisante, quoi.
Tu le mentionnais il y a quelques instants, tu as 20 ans de carrière derrière toi. Est-ce que cette année, un petit peu plus, voilà. Est-ce que c'est la période de la maturité ou est-ce que dans l'art et la musique en particulier, la maturité, c'est qu'une vue de l'esprit?
On est quand même adolescent peut-être, je ne sais pas. Non, maturité, malgré soi, de toute façon, les temps font les choses, donc on se transforme. On évolue. Après, bon, maintenant, vous savez, faire ce genre de constat, c'est toujours un peu délicat quand même.
2014 démarre pour les Montpelliérains donc ce 24 janvier.
Bah, ça a commencé au mois de septembre déjà, oui. On a déjà une quinzaine de dates derrière nous, et puis qui va se poursuivre jusque vers la fin août, donc qui après effectivement n'existera plus. Donc c'est un projet pour l'année, comme tu le dis.
Donc il faudra profiter du passage à Montpellier, parce que j'imagine qu'il n'y aura pas d'autre passage montpelliérain avant quelques temps.
Oui, et puis ça sera, de toute façon, si je reviens à Montpellier plus tard, ce ne sera pas le même projet, puisque à chaque fois j'essaie de faire des projets très différents. Avec des orchestrations différentes, et même le répertoire change à chaque album, puisqu'en général, je joue l'intégralité du nouvel album, et donc il reste, disons, les deux tiers du spectacle pour un répertoire plus ancien, et puis aussi des petits sketchs que j'écris au fur et à mesure de mes tournées, qui m'amusent et que je produis sur scène entre les chansons.
C'est-à-dire que c'est y a quelque part un one-man show frustré dans Thomas Fersen.
Bah, en tout cas, je me savais à force de... Au départ, moi, je faisais que parler entre les chansons parce que le public aime ça, parce que le public a besoin de ça, de ce contact-là. Et puis petit à petit, ça s'est étoffé, puis c'est devenu le virus m'a pris. Donc j'ai commencé à écrire pour ça, et à écrire en vers même carrément. Donc effectivement, c'est de la situation qui m'a poussé à le faire, à écrire, à me mettre à faire le one-man show, comme vous dites.
On pouvait lire sur les chroniques d'André Manoukian de France Inter, un érudit glandeur qui connaît la rhétorique du baby-foot.
C'est la chanson Mes compétences, où c'est l'histoire d'un type qui va dans un entretien d'embauche et il dit tout ce qu'il sait faire. Donc entre autres, il sait jouer au baby-foot et il explique tous les coups qu'il sait faire au baby-foot.
D'accord.
Direction du personnel.
Un divertissement que tu as abondamment pratiqué ou jamais?
J'ai un baby foot chez moi, oui. Comment faire pour mes 40 ans, parce qu'on savait que je jouais au baby foot et que j'aimais ça. Et maintenant, c'est mes enfants qui jouent avec moi.
Ben comme quoi la tradition se perpétuera, justement, en matière de perpétuation de la tradition.
Peut-être qu'ils ne seront pas chanteurs, mais en tout cas, ils joueront au baby-foot.
Ou de la musique.
Ouais, peut-être.
Ce n'est pas encore tout à fait le cas, donc.
Je ne sais pas. Ouais, non, moi, mes parents, si on leur avait dit que j'allais faire ça, ils auraient levé les yeux au ciel.
Ouais, ils auraient pas été très, très, très partants, tu penses?
Je sais pas, mais ça leur a été étranger. Mes parents m'ont jamais empêché de faire ce que j'avais envie de faire, mais bon, il n'y avait pas de musicien à part mon grand-père, quoi, mais je ne vivais pas avec lui. Donc, dans la maison, personne ne faisait de musique, quoi. C'est moi qui ai eu envie d'avoir une guitare quand j'ai eu 14 ans, mais c'est pas mes parents qui m'ont poussé à faire de la musique.
Le concert, c'est donc ce 24 janvier sur la scène du Domaine d'Eau à Montpellier, une ville où tu as déjà joué plusieurs fois, pour laquelle tu as un sentiment particulier?
Bah, écoutez, moi, de toute façon, le public change et je pense que chaque soirée est différente. Même quand on joue plusieurs soirs dans la même ville, c'est pas pareil d'un soir à l'autre. Donc j'ai jamais de préjugés sur une soirée j'arrive et c'est une découverte, j'arrive bien avec curiosité à chaque fois. Et je pense que c'est pour ça que je continue aussi, c'est que c'est toujours imprévisible un concert.
Et puis avec...
Alors, évidemment, on a préparé des choses, on a répété, il y a une scène qui est préparée, une scénarisation aussi du spectacle, mais malgré tout, c'est toujours plein de surprises.
Toujours plein de surprises, mais avec un album qui s'intitule Je suis au paradis, et avec une tournée où on joue tout l'album, c'est un bon truc pour être au paradis, quelle que soit la salle dans laquelle on joue.
J'essaye d'être au paradis dans la vie, oui. Comme je suis pas sûr de son existence, je préfère essayer de le trouver ici.
En tout cas, gageons que les Montpelliérains seront au rendez-vous pour être avec toi au paradis. Merci pour ces quelques minutes d'entretien téléphonique.
Okay, à bientôt.
Merci.
Au revoir.
On reste à la cabane au car. On est posé, on est serein. Quand on en a vraiment trop marre. Quand on trouve que franchement ça craint. Quand on en a vraiment plein le dos. Plein le dos de la cabane au quart. Quand on en a marron des quarts. derrière le château d'eau. On est posé, on est tranquille, on est comme les pingouins des îles. Quand on en a vraiment plein le dos d'être derrière le château d'eau. Quand on en a marre du décor, on va au monument aux morts. On est posé, on est tranquille, on est comme les pingouins des îles. Et bien qu'on soit des mecs sympas, les filles on les accepte pas. Elles ont toujours un peu de travers. Il fait toujours trop froid l'hiver. Il fait toujours trop chaud l'été. Non mais franchement faut arrêter. Trop chaud l'été, trop froid l'hiver. Avec les femmes faut être sévère.
Et oui, alors il sera derrière ou devant le château d'eau, je ne sais pas. En tout cas, il sera au domaine d'eau ce vendredi soir, Thomas Fersen. C'est une programmation de Héros Musique Danse, dont Sabine Maillard, directrice, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, depuis 18 ans, je viens d'apprendre, tu occupes cette lourde responsabilité d'être directrice de musique de Héros Musique Danse. Héros Musique Danse, c'est les nuits d'eau, c'est de la formation professionnelle, c'est le 34 Tours, c'est l'orchestre départemental amateur, c'est des informations sur les écoles de musique, de l'accompagnement, de l'expertise artistique, j'en passe et des meilleurs. Une structure qui a, j'imagine, pas mal évolué en 18 années d'existence, dont tu es le témoin vivant.
Oui, on a beaucoup évolué, oui, c'est sûr. C'est l'intérêt, c'est tout l'intérêt de ce boulot, c'est de s'adapter vraiment aux besoins de terrain. Et puis les besoins de terrain, ils ne sont pas les mêmes qu'il y a 18 ans, c'est sûr. Il y a 18 ans, on s'occupait que de musique, puis on s'est occupé de danse progressivement. Mmh. Et puis on a mis en place des dispositifs qui ont été abandonnés parce que finalement le terrain a repris, ces initiatives-là. Nous, on est beaucoup, on essaye d'être dans l'initiative. Voilà. Mmh. Et puis, normalement, notre but, c'est pas vraiment d'être des opérateurs, de pérenniser les choses. On lance des trucs quand il y a un besoin. Puis après, si quelqu'un reprend la main, on est très content. Voilà.
Mais... tout au long de ces 18 années, j'imagine qu'il y a aussi des changements conjoncturels, pour dire ça poliment, parce que les mandats politiques vont et viennent, mais les gens qui font le boulot, souvent, ils restent en place, et parfois, c'est plutôt bien, parce que sinon, il n'y aurait pas beaucoup de continuité. Là aussi, ça se passe sereinement.
Oui, vraiment. Notre tutelle principale, c'est le Conseil général de l'Hérault. Là, je dois dire que depuis que je suis à la direction de cette association, on a une liberté quasi entière d'action, et c'est vraiment génial parce que on a cette souplesse-là de pouvoir s'adapter, lancer des trucs, expérimenter, et on a toujours été suivi. Oui, là, vraiment. Ce côté-là, c'est parfait.
Avec de beaux succès, puisque alors là, pour parler des nuits d'eau, c'était 1300 personnes chaque soir en 2013, avec des vidéos éloquentes où on voit la foule en délire qui remplit les gradins. Et puis, c'est aussi, quelque part, pouvoir se faire un petit plaisir, c'est-à-dire programmer quelques concerts. Alors là, on est là pour parler de celui de vendredi, le concert de Thomas Fersen. Mais il y aura aussi, le 20 février, un concert de Moulatou Astat. Je vais y arriver, c'est super dur à dire. Comment vous choisissez les concerts que vous faites au domaine d'eau? Là, on précise que c'est dans le tout nouveau bâtiment, tout de rouge vêtu.
Oui, alors on nous a confié donc une partie de la programmation de ce nouveau théâtre Jean-Claude Carrière, qui est un très très joli théâtre. Donc on est très content de s'occuper de ça. Donc nous, on fait des propositions en matière de chansons, jazz, musique du monde, en gros. Comment on fonctionne? Beaucoup au coup de cœur. On propose avant tout ce qu'on aime. Et puis, bien sûr, après, on tient compte des tournées. C'est vrai que, par exemple, cette programmation, toute première programmation autour de Fersen et de Moulatou Astat Keh a été faite assez rapidement, puisqu'il a fallu reprendre un peu la main après le départ de Christopher Crimes. Et donc, on a démarré avec ce qu'on avait envie de programmer. On avait envie de faire de la chanson. Et puis, Mouletou, c'est vrai que... Enfin, Mouletou Astatke, je l'appelle comme si c'était mon copain, mais non, on n'est pas copains. Il était en tournée et on s'est dit, on ne peut pas laisser passer une occasion pareille. Mmh. Ça fait... Alors lui, c'est rare quand même qu'il fasse des tournées en Europe. C'est un vieux monsieur maintenant, hein, mais qui a toujours... une pêche incroyable et une créativité vraiment importante. Donc bon voilà, on a démarré comme ça. Allez, et puis c'était bon, donc on a sauté sur l'occasion.
Alors je rappelle qu'il reste quelques places pour Thomas Fersen, c'est presque complet. C'est
oui, il reste à ce jour 16 places, hein, donc dépêchez-vous.
Voilà, donc c'est vendredi soir. Puis pour celui dont l'âge avancé lui a valu quand même la consécration d'être considéré comme le père de l'Ethio Jazz, l'excellent vibraphoniste dont la musique portée par le film Broken Flowers avait fait le tour du monde en 2004. Ce sera le 20 février, donc là il reste de la place.
Oui.
On peut d'ores et déjà réserver ses places. On rappelle que c'est domaine-do-33. 34.eu pour ce qui concerne le domaine d'eau, et c'est heromusicdance.fr pour ce qui concerne bien le site de heromusicdance. Sabine Maillard, on vous remercie d'être venue dans les studios de Divergence.
Merci à vous.
Et puis voilà, bon vent et n'oubliez pas de réserver vos places pour ces concerts. Au revoir.
Au revoir.
Rendez-vous donc le 20 février pour ce concert. À présent, eh bien, on reçoit Tito, Florent et Christopher. Ce n'est pas Vendredi Théâtre, mais c'est bien l'Auberge Espagnole. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Gilles.
Bonjour Gilles. Bonjour.
Alors si nous sommes ensemble, ce n'est pas pour parler de théâtre, mais pour parler des 10 ans de l'association Casa Amadis, dont vous êtes les fiers protagonistes donc depuis 10 ans, on l'aura bien compris. Association de culture lusophone qui donc s'est créée il y a 10 ans, c'était où ?
Ben, c'était dans un coin de table au départ, c'était donc le 16 décembre 2003, on était Tito et moi, on s'est dit tiens si on faisait une association culturelle portugaise à Montpellier parce que ça n'existait plus. Et donc voilà, ça s'est créé sur un coin de table. Maintenant, bon, ben, elle a grandi l'association, on a maintenant un local, on a une bibliothèque, on est devenu antenne consulaire aussi, et puis Christopher nous a rejoint, il est maintenant le secrétaire de l'association.
Oui, l'association d'ailleurs qui m'avait beaucoup aidé à la base, parce que je réalisais un mémoire sur la révolution des œillets, et je cherchais des documents, et cette bibliothèque m'a beaucoup aidé, et puis au fur et à mesure, j'ai pris goût à l'ambiance de l'association, et j'en suis devenu, il n'y a pas longtemps, le secrétaire, et comme quoi, elle est très utile cette association, hein, même pour des recherches universitaires.
Voilà, puisque on le rappelle, toi, c'est l'histoire, mais tu parles portugais, non ? Oui, non ?
Eu falo português, sim.
Ah, voilà, alors ça a aidé aussi, j'imagine, à la rencontre, parce que c'est pas au travers des cours que Tito donne à l'association que tu l'as appris, tu le parlais alors, déjà ?
Moi, je le parlais déjà, et avec Tito, je n'ai pas parlé en portugais, mais de temps en temps, on pratique, histoire de ne pas perdre trop, pour moi en tout cas.
Sim, sim.
Alors, on le disait, l'association, elle vit à travers les cours. Elle vit à travers des maigres subventions, on va dire ça comme ça.
Plus en plus maigres.
Voilà, même si vous avez le soutien de la ville de Montpellier qui vous héberge en quelque sorte.
On a un très beau local, à l'espace Jacques Ier d'Aragon, on a 70 mètres carrés, ce qui nous permet de mettre les 4000 volumes de la bibliothèque. C'est une bibliothèque bilingue, j'en parle beaucoup de la bibliothèque parce que c'est un petit peu mon bébé. Donc il y a des ouvrages traduits du portugais, il y a des ouvrages en portugais, il y a des ouvrages français traduits en portugais, et sur tous les sujets. C'est pas une bibliothèque uniquement universitaire. Il y a aussi des livres de cuisine, il y a des livres pour apprendre le macramé en portugais, il y a des livres pour enfants. On vient de recevoir l'intégrale de Tintin en portugais. Voilà, donc il y a de tout.
Des volumes qui vous sont donnés par des donateurs, des particuliers que vous récupérez auprès de bibliothèques.
Il y a de tout. En fait, il y a beaucoup de particuliers qui nous donnent des livres. Il y a des institutions, il y a peu d'éditeurs, mais il y a un petit peu d'éditeurs qui nous donnent. Là, on vient de recevoir des legs, un leg de quelqu'un qui est décédé, qui avait une bibliothèque en portugais. Et sa famille a décidé de nous donner les 300 volumes de sa bibliothèque en portugais.
Et on a aussi un partenariat avec l'Institut Gulbenkian qui se trouve à Paris et qui nous permet d'avoir des échanges facilités avec la bibliothèque qu'ils mettent à disposition aussi,
oui,
à travers l'association.
Alors, c'est la Fondation Gulbenkian, et la Fondation Gulbenkian est une immense institution qui a d'ailleurs été notre ministère de la Culture pendant le fascisme et qui est notre ministère de la Culture à nouveau maintenant que les fascistes sont revenus au pouvoir par la voie démocratique. La bibliothèque, c'est une immense bibliothèque à Paris et on a un système de prêt, donc ce qui permet des recherches universitaires importantes.
Alors combien de membres compte l'association aujourd'hui ?
Une cinquantaine.
Ça dépend, il y a des années où on est 130, et parce qu'il y a beaucoup d'universitaires qui viennent nous rejoindre, donc les universitaires, ça va, ça vient. Donc je crois que le record d'adhésion, c'était presque 150. La constante, c'est une cinquantaine. Après, bon, ça dépend des années, ça dépend, voilà.
Et beaucoup d'élèves viennent suivre des cours de portugais, parce que c'est vrai qu'à Montpellier, il n'y a pas énormément de cours de portugais.
Pas plus de 10 chaque année. Il n'y a pas beaucoup, Il n'y a pas tant que ça.
Mais c'est plus simple pour faire les cours.
Oui, bon, de toute façon, je ne ferai pas un cours de 30. Ça, c'est le problème qu'on n'a jamais réussi à résoudre. C'est vraiment quand même... il faut continuer de batailler là-dessus pour avoir des élèves. Parce qu'il faut c'est quand même la troisième langue d'Europe internationale devant le français. Mm-hmm. Hein, et c'est la cinquième au monde. Donc, il faut quand même continuer de batailler pour que les gens apprennent cette langue, parce qu'en plus, elle ouvre énormément de portes. Notamment, c'est la troisième langue en Afrique. C'est la deuxième d'Amérique. Et donc, si on compte l'Amérique du Nord, la troisième. Mm-hmm. Mais le Brésil est immense, il y a l'Angola, et c'est aussi une langue qui est parlée en Asie. Donc voilà, j'ai fait ma petite pub pour la langue portugaise.
Et c'est une langue qui va si bien pour faire de la musique.
C'est très bête de penser. Moi, j'ai l'habitude de dire, parce qu'au Portugal, maintenant, on n'apprend plus que l'anglais pratiquement, et je dis toujours, l'anglais, c'est comme l'eau courante. Mais si on n'a que de l'eau froide, c'est difficile de prendre une douche. Donc, les autres langues, c'est l'eau chaude. Et c'est kiff-kiff. Hein, apprendre l'italien, le portugais ou l'espagnol, ça a exactement la même importance. Et ouvre exactement les mêmes portes, mais le même nombre de portes, mais pas les mêmes. Voilà. Donc il faut choisir la langue, la deuxième langue qu'on veut en fonction de ses désirs, de ses plaisirs ou de ses objectifs. Et pas penser qu'une telle est plus importante que l'autre. Parce que l'italien, c'est très important dans le domaine de l'art, etc. Le français à l'étranger continue quand même d'être une langue très importante. Moi, là, je parlais de journalisme, par exemple. On va amener peut-être un journaliste et on me dit, est-ce qu'il parle français ? Je dis, mais quand on est journaliste, un journaliste portugais est obligé de lire au moins le français, puisque les journaux français sont très importants. Mais un journaliste qui ne parle pas anglais, quand même. Donc, voilà. Pour parler des langues.
Tout à fait. Alors, pour fêter les 10 ans de l'association, il y aura une exposition de Aquilino Ribeiro, intitulée Géographie sentimentale, Paris-Lisbonne. C'est du 27 au 31 janvier. L'inauguration, ce sera le 28 à 18h. Qui est Aquilino Ribeiro ?
Alors, c'est sans aucun doute le plus grand romancier portugais de la première moitié du XXe siècle. Dans la poésie, on a Pessoa, que tout le monde connaît. Il y a beaucoup de concurrence dans la littérature en langue portugaise, parce que c'est quand même une des littératures majeures. Mais Aquilino Ribeiro est aussi important parce que c'est quelqu'un qui a vécu son siècle. Il a participé aux révoltes pour la République avant 1910. Il a été exilé en France. Parce qu'il y a une bombe qui a explosé chez lui.
Il était très lié avec le milieu anarchiste.
Voilà. Après, à Paris. Et donc, il y a une histoire d'amour avec la ville de Paris, qui était toujours la ville où il allait chaque fois qu'il avait un problème, puisqu'il a été emprisonné plusieurs fois.
Il s'est évadé.
Hein, c'était un grand gaillard, hein, quand même, de la campagne, qui savait qui les avait là où il fallait. Donc,
alors, ce qui est marrant, c'est aussi que c'est un fils de curé qui est devenu anticlérical.
Oui, par la force, comme disait, par la force du séminaire. Et le séminaire l'a rendu athée, du moins agnostique. Et c'est un monsieur qui arrive à Paris, par exemple, en 1907, et qui s'intègre immédiatement chez les Montparnasse. Il comprend, il va au salon d'automne, il comprend les cubistes, il comprend les fauves. Et il envoie, parce que c'était son gagne-pain, des articles au Portugal. Donc il y a eu une énorme influence, et notamment par rapport au groupe de Pessoa, puisque c'est le premier article qui apparaît sur le futurisme. C'est lui qui l'a écrit en 1913. Et c'est un type comme ça. Il a participé à la création d'une revue littéraire majeure. Il a travaillé à la Bibliothèque nationale. C'est un mec, surtout. Alors, un grand styliste. Donc, il est traduit en français. Il y a cinq romans et livres de nouvelles qui ont été publiés. Il y a même un conte pour enfants qui s'appelle Roman de la Renarde.
Qui est très drôle.
Et qui a été illustré par Benjamin Rabier. Alors, Benjamin Rabier, ceux qui ne se souviennent plus, c'est celui qui a fait La Vache qui rit.
Hein, bon, le voilà. Fromage ?
Oui, la boîte de fromage, la vache qui rit, c'est Benjamin Rabier qui l'a fait.
Ah oui, d'accord.
L'image. Et il n'a pas créé le fromage, je crois pas. Et donc, il était dans ce milieu, quoi, de Herluburu, de Montparnasse. Mmh, mmh. Et c'est son quartier. Donc, on a essayé de faire une... Il y a eu beaucoup d'expositions sur lui, puisque...
Oui, j'allais y venir. Alors, vu qu'il nous reste 2 minutes, comment se présente l'exposition?
Alors, l'exposition est surtout axée sur cette va-et-vient entre Paris et Lisbonne. Et ça s'appelle « Géographie sentimentale », en rapport avec un livre qu'il a écrit, qui s'appelle « La géographie sentimentale ». Et donc, ça, à chaque fois, on dit où il est, et par rapport à l'endroit où il est, et c'est expliqué ce qu'il faisait.
Mmh. À signaler qu'on va recevoir le petit-fils de l'auteur qui va venir nous rendre visite à Montpellier, donc, et qui va faire la conférence le 28, le soir de l'inauguration.
Voilà, qui porte le même prénom, mais pas le même nom de famille.
Oui, parce que c'est... Alors,
c'est une histoire intéressante.
C'est un type...
que nous n'aurons peut-être... Si, allez, vite fait.
Alors, vite fait, c'est on est toujours dans le domaine des Républicains, puisque tout ça, il a épousé la fille du président de la République.
C'est pratique. Aquino Ribeiro.
Oui, donc il n'a pas eu besoin de...
Du coup, il s'appelle Machado maintenant.
De voilà. Faire des histoires en scooter. Hein, donc, il n'y a pas de scooter dans l'affaire. et donc, ce sont des gens passionnants comme ça. Voilà, ce sont des gens passionnants qui ont vécu une vie absolument aventureuse et qui ont trouvé le temps pour écrire. Et ça, c'est extraordinaire. Son fils, Aquilino Ribeiro Machado, à qui on dédie l'exposition, parce qu'il est mort avant de pouvoir venir. Il voulait venir, mais il est mort. Il a été premier président élu, premier maire élu de Lisbonne. Ce sont des gens très engagés comme ça. Mmh. Voilà. Donc, c'est passionnant.
Rendez-vous donc le 28 à 18h pour l'inauguration. Ce sera suivi donc de la conférence de Aquilino Machado, petit-fils de l'auteur, et d'un buffet portugais, bien évidemment, dans le cadre des 10 ans de Casa Amadis. Et ça se passera à la Maison des Relations Internationales.
Oui.
Nelson Mandela.
Voilà, Nelson Mandela a-t-on rajouté récemment à l'occasion de sa disparition. On se quitte en musique, Florent, tu nous dis...
Avec Stravinsky interprété par Boulez, puisque Aquilino Ribeiro adorait le ballet, et puis 1909, il a certainement vu la première à Paris de ce ballet de Stravinsky.
Il y a des chances.
Florent Tito Christopher, on vous remercie. Merci. On remercie Bruno Bertrand qui a réalisé cette auberge espagnole, qui est une production de Divergence FM, qui vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.